Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui assure ses clients, partenaires et employés de tout son soutien face à cette pandémie. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. L'épidémie de Covid-19 reste une réalité dans de nombreuses régions du monde et une menace pour d'autres territoires. Mais à côté du suivi de cette nouvelle maladie, nous restons confrontés à tous nos autres problèmes de santé, plus ou moins graves, plus ou moins gênants, douleurs à l'estomac, dans le dos, maux de tête, fatigue persistante, ces questions de santé du quotidien qui peuvent parfois rester longtemps sans réponse parce que le diagnostic n'est pas toujours évident lorsque l'on considère que ce n'est pas assez sérieux pour prendre un rendez-vous avec un médecin, mais aussi parce qu'en ce moment, justement, à cause du risque d'infection, eh bien, on peut être tenté de repousser une consultation pour éviter de contracter ce virus. Alors, il y a bien sûr pour certains la tentation, la solution Internet, avec le risque d'entrer un mot-clé et de voir apparaître sur l'écran une réponse bien plus inquiétante que la réalité de notre état, diagnostic virtuel alarmiste, voire pire, site médical qui n'en est pas un, avec à la clé infox, charlatanisme et autres recettes miracles. Alors face à une interrogation, effet secondaire, fièvre, léger malaise, il faut trouver le bon interlocuteur, expliquer, décrire et consulter pour sortir du doute. Et dans ce cas-là, bien sûr, l'avis d'un professionnel de santé est indispensable. Et bien évidemment, vous le savez, des réponses dans une émission comme Priorité Santé, cela ne remplacera jamais une véritable consultation. Aujourd'hui, pour nous éclairer, pour répondre à vos questions de santé au quotidien, avec nous, Dr Massamba Sassoun Diop, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour aux auditeurs.
Vous êtes médecin urgentiste, président de SOS Médecins à Dakar au Sénégal. Et en fin d'émission, on va retrouver notre séance d'activité anti-sédentarité avec le docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Aujourd'hui, on aura besoin d'un pas de tapis de sol tout simplement d'aussi de pas mal d'énergie.
Priorité santé sur RFI.
Alors on vous donne la parole bien sûr dans quelques minutes, questions des auditeurs, éclairage du docteur Massamba Sassoun Diop en ligne de Dakar. Mais on va commencer cette émission avec un événement qui se tient à Paris, puisque débute cet après-midi ce rendez-vous très attendu par les soignants, par la communauté médicale, par le personnel des hôpitaux, qui vous le savez n'a pas compté ses heures ces derniers mois, crise sanitaire sans précédent en Europe, dans de nombreuses régions du monde, crise qui a aussi révélé les compétences, le dynamisme des soignants, mais aussi le manque de moyens. Ségur de la santé, concertation, 300 interlocuteurs, c'est en visioconférence, bien sûr à cause du risque infectieux. Et en ligne, on vous retrouve, professeur Cécile Vigneault, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de service de néphrologie au Centre hospitalier universitaire de Rennes, membre du collectif Interhôpitaux. Alors depuis des mois, bien avant cette crise, vous avez alerté sur ce qui se passe dans l'hôpital public en France. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a dit que rien ne serait plus jamais comme avant. On a entendu le terme aussi « leçon tirée de l'épidémie ». Pour vous, professeur Cécile Vigneault, c'est quoi ces leçons que vous tirez aujourd'hui ?
Alors la leçon, c'est qu'il y a urgence, que l'hôpital public a tenu, mais en déprogrammant, en faisant que du Covid dans les zones rouges et même en déprogrammant partout, et que ça a bien montré effectivement ce qu'on disait depuis des mois, c'est-à-dire que l'hôpital public était en souffrance et ne pourrait pas, sans modification majeure, gérer une épidémie de ce type. Ça a montré aussi, notamment dans les zones rouges, que si on laissait la main aux gens de terrain, puisque les directions ont changé leur façon de travailler, ont demandé aux gens ce dont ils avaient besoin, parce qu'ils avaient aussi la bourse complètement déliée avec le « quoi qu'il en coûte » de M. Macron, que si on écoutait les gens de terrain, que c'était les gens de terrain qui disaient combien de personnel on avait besoin, de quelle machine on avait besoin, de quels médicaments, et ben ça marchait très très bien parce que tous à l'hôpital public, tous les métiers de l'hôpital public, parce que tout le monde a été mobilisé, on arrivait à marcher très très bien, à augmenter les lits, à transférer les malades, à les prendre en charge et à diminuer la mortalité qui aurait été bien pire. Donc nous, un de nos principaux leitmotivs, c'est de redonner la parole aux gens de terrain de tous les gens de terrain de l'hôpital, hein, pas que les médecins, pas que les infirmières, mais tout le monde, pour faire un hôpital qui travaille mieux et plus humain.
Alors, c'est le point de départ, hein, ce Ségur aujourd'hui, cet après-midi. Début juin, il y aura un espace d'expression pour les professionnels de la santé, un rendu pendant l'été, à l'automne, au Parlement, la loi qui est attendue. On a vu cette crise pour le meilleur, c'était vos compétences, à vous, les soignants, à tous ces personnels de santé. Et puis le pire, l'économie. En une minute, s'il fallait dire les points sur lesquels vous ne transigerez pas les, comme on dit, hein, expression un petit peu forcée, les incontournables pour vous aujourd'hui, c'est quoi?
Les incontournables, c'est revaloriser les petits salaires de l'hôpital pour les mettre au même niveau que l'OCDE dans un premier temps. L'urgence, c'est de changer la gouvernance, c'est incontournable, changer la gouvernance, arrêter toutes ces strates administratives, revenir à une médecine qui écoute les gens de terrain et à une direction partagée, médicale, paramédicale et administrative, pour être au plus près des patients et associer les patients à cette gouvernance et aux décisions de santé. Et puis l'urgence, c'est des embauches pour être plus nombreux, avoir plus de bras dans l'hôpital pour pouvoir revenir vraiment à une bonne médecine, à un bon soin au quotidien.
On a entendu justement le gouvernement s'avancer, on va dire, en termes de salaire, même s'il n'a pas donné de chiffres précis. En revanche, sur les effectifs, rien pour l'instant. Est-ce que ce point sera, vous venez de le citer, mais absolument essentiel?
Oui, parce qu'on ne peut pas améliorer la qualité des soins des patients et améliorer la qualité de vie du personnel sans mettre plus de personnel. Bien sûr, il faut revaloriser les salaires parce qu'on a vu que c'était des métiers essentiels et qu'il faut le reconnaître à sa juste valeur. Mais on ne changera pas notre qualité de travail à tous si on n'est pas plus nombreux. Et si on n'est pas plus nombreux, si on n'améliore pas notre qualité de vie au travail, on n'aura pas l'attractivité qui est nécessaire dans les hôpitaux publics parce que les gens partent, quel que soit le métier de l'hôpital, les gens partent dans d'autres hôpitaux.
Dans le secteur libéral.
Privés, soit dans le secteur libéral, soit font autre chose, complètement, changent de métier. Parce qu'ils n'en peuvent plus des cadences et de ne pas pouvoir faire leur métier correctement. Quand vous devez faire 10 toilettes dans la matinée à 2 aides-soignantes, vous ne pouvez pas les faire comme vous aimeriez les faire. Vous faites bien, mais pas vraiment bien, vraiment avec le temps de discuter avec les patients, par exemple.
Passer de l'acte au soin, au sens du soin. Merci beaucoup, hein, professeur Cécile Vigneault. Bien sûr, dans Priorité Santé, on va suivre cette actualité du Ségur de l'hôpital.
La santé, c'est une priorité.
Les questions des auditeurs avec vous, docteur Massamba Sassoun Diop, dans quelques minutes. Mais cette actualité du Covid-19, encore lui, hein, avec les derniers chiffres officiels donnés vendredi par l'OMS, 100 000 cas confirmés sur le continent africain, un autre chiffre, 3100 décès sur le même continent. Et ce qu'on voit, docteur Massamba Sassoun Diop, c'est que cette mortalité en Afrique, elle est bien inférieure, par exemple, à ce qu'a connu l'Europe.
Avec le recul, on commence à avoir un facteur 100 environ, c'est-à-dire 100 fois moins de décès et de patients donc malades. Il semble qu'il y a différentes raisons, on va rapidement évoqué, mais c'est simplement, il semble qu'il y ait bien sûr cette jeunesse. 90% des patients en Europe qui décèdent ont plus de 65 ans. Et en fait, ça ne représente que 3% de la population en Afrique et plus de 21% de la population en Europe. Il y a il y a une discussion sur la température, il y a une discussion sur le fait du climat plus globalement, il y a une discussion même là, j'ai vu récemment sur l'effet de la vitamine D le système, par rapport au système immunitaire. Mais je pense qu'il faut quand même faire attention et continuer. Il y a quand même des décès. Nous, par exemple, on a eu un jeune de 37 ans qui est décédé. Il avait tous les facteurs de risque entre l'obésité, les antécédents respiratoires, le diabète, l'hypertension. Donc, on a ces personnes qui continuent à décéder. On a des personnes âgées. La plupart des personnes qui décèdent ont plus de 65 ans en Afrique. Et donc, il faut continuer, malgré tout, à faire attention. Et
j'aurais juste on maintient les gestes barrières. Hein. C'est très important toujours de le dire aux auditeurs.
Exactement. Ça, je pense qu'il faut vraiment le maintenir pour étaler ce risque de transmission et finalement qu'on n'ait pas de surcharge dans nos structures médicales parce que malgré tout, elles ne sont pas aussi nombreuses qu'il ne le faudrait et donc on peut avoir un risque. Et puis, il y a d'autre part, là, actuellement, un vrai problème avec les patients qui ont les autres maladies, qui sont hypertendus, qui sont diabétiques, qui font des décompensations des maladies chroniques qu'ils avaient parce qu'ils sont moins bien pris en charge et on a un vrai problème de ce côté-là. Et la dernière chose, je voudrais faire remarquer quand même, et on le voit même d'ailleurs dans les études actuelles, c'est pas dit en Europe, entre autres en France, parce qu'on ne parle pas des races, entre guillemets, pour les raisons informatiques ni les autres, mais on le voit aux États-Unis, les Afro-Américains ont plus du double, voire du triple de décès. Donc ça veut bien dire que l'Africain en dehors du continent décède. Et on a la même chose en fait en France, c'est simplement pas notifié, mais tous les collègues le disent. On a ce même phénomène-là. Ça veut donc dire qu'il y a quelque chose, je dirais, de protecteur en Afrique. Il y a des phénomènes, et c'est le temps, le recul qui va nous permettre de le voir. Et même on se pose, nous, enfin là je dirais même plus personnellement, des questions sur est-ce qu'il n'y a pas quelque chose avec le biotope, avec
des facteurs environnementaux.
Voilà, qu'on rencontre des germes, des virus, des bactéries classiquement, en plus du soleil, et qu'en fait, est-ce qu'il n'y a pas, parce qu'on a l'impression que aussi dans les communautés étrangères, entre guillemets, par exemple au Sénégal, on a moins de décès. On devrait en avoir. Donc c'est purement une interrogation, mais on a cette impression-là qu'on n'a pas les décès qu'on devrait avoir chez, l'obèse européen ou libanais. Vous voyez. Donc
il y aura des recherches à mener de ce côté-là. On attend des explications de ce côté-là. Alors on va maintenant donner tout de suite la parole à nos auditeurs.
Priorité santé sur RFI.
Et destination Conakry où l'on retrouve Ibrahim. Ibrahim, bonjour.
Bonjour.
Alors expliquez-nous votre problème, le docteur Massamba Sassou Ndiop est à votre écoute, allez-y.
Voilà, en fait j'ai un petit souci, un petit problème. Il me semble que je suis allergique à la poussière, notamment à la pollution depuis quelques années, notamment pendant la saison sèche. J'ai tousse beaucoup et puis j'ai une gorge qui est prise de façon régulière. J'avais remarqué il y a quelques temps, si je suis en rase campagne, je n'ai pas de soucis. Là, tous ces signes disparaissent. Mais dès que je reviens en ville, le problème recommence. Et avant, cette année, ça fait un peu compliqué. Avant, si pendant la saison des pluies, je n'ai pas assez de soucis. Mais cette année, il pleut un peu. Ça a commencé à pleuvoir à Conakry, mais j'ai continué à ressentir les mêmes signes. Est-ce que je peux avoir des conseils? J'avais vu un médecin qui me disait que je suis allergique à la poussière, à la pollution. Mais comme ça persiste, il m'avait dit récemment d'aller voir un médecin ORL. Je ne suis pas allé d'avoir avec cette situation liée à la pandémie. Est-ce que je peux avoir des conseils du médecin?
Ibrahim, j'ai une petite question. Quand vous aviez vu le médecin qui vous avait dit que vous étiez certainement allergique, il vous avait donné un traitement ou juste ce diagnostic?
Il m'avait prescrit des produits. J'ai oublié le nom parce que je n'ai pas l'ordonnance que j'avais acheté. Il m'avait prescrit 3 produits que j'avais pris, mais franchement, je n'avais senti aucune amélioration.
Aucune amélioration. Je vous donne la parole, docteur Massamba Sassou Ndiop. Ibrahim qui décrit une gêne respiratoire, des manifestations ORL liées non seulement au lieu de vie, mais aussi à la saison.
Oui, tout à fait. Bonjour Ibrahim. Alors, c'est très intéressant parce qu'en fait, vous voyez une chose, c'est que justement, il dit qu'à la campagne, il n'a pas, il a à la ville. Est-ce que le matin, vous êtes plus pris que l'après-midi ou le soir?
Ça c'est très intéressant. C'est le matin, le problème c'est le matin. Quand je me lève le matin, j'ai une gorge prise, il faut que je me mousse pendant de longues minutes même. La journée ça va presque, le plus souvent j'ai pas de problème la journée, notamment le matin, et je ne tousse pas.
Donc vous voyez, si c'est le matin, ça veut dire qu'il faut que vous recherchiez dans votre habitat, c'est-à-dire dans votre chambre, c'est-à-dire dans la maison, mais je pense probablement dans la chambre, peut-être même tout simplement l'oreiller, ou un autre, je ne sais pas, bon, je pense que vous êtes de la moquette ou pas, est-ce que c'est un oreiller entre guillemets en plume ou synthétique? En tout cas, il faut que vous recherchiez plutôt dans la chambre quel est l'allergène, parce que ça veut dire qu'effectivement, il a raison pour ça, le médecin, quand il vous a dit que vous faisiez une allergie, mais maintenant, il faut rechercher l'allergène que vous avez dans votre chambre. Et vous n'utilisez pas de climatisation?
Non.
Vous n'êtes pas... Voilà. Donc ça, c'est un autre facteur quelquefois, quand les gens ont la climatisation la nuit, ça peut être dans le filtre. Donc là, ce qu'il faut, d'ailleurs à ce propos, j'en profite, par rapport, très vite, rapidement, par rapport entre autres aux problèmes de Covid et autres, que là, on a la chaleur qui commence à arriver dans un certain nombre de gens, de zones au niveau du Sahel, et l'utilisation des climatisations. Entraîne une avec le problème de filtre ou le problème de chaud et froid et de parasites dans les filtres, des allergies, et on va avoir il y a un virus, c'est plutôt un H3N2 qui entraîne 42 fièvres pendant 4 jours environ, et on arrive là au moment où ça va se déclencher. Et surtout, si je peux donner un conseil de prévention, nettoyez vos filtres, ça c'était accessoire, et évitez d'avoir de trop refroidir les pièces. Ça, c'est purement en plus. Mais par rapport à vous, je pense que ce qui est important là, c'est d'aller chercher le plus rapidement possible quel est dans votre chambre ce qui entraîne cette allergie. D'autre part, en attendant, vous allez prendre des antihistaminiques. Quelquefois, il peut être intéressant, si vous avez la possibilité de faire un scanner au niveau des sinus, de voir si vous n'avez pas une petite polypose, s'il n'y a pas quelque chose au niveau de vos sinus qui entretient aussi les choses. Donc en résumé, prendre un traitement antihistaminique, allez bien sûr consulter et regarder qu'est-ce qui chez vous favorise cette allergie.
Moi, je pense, Ibrahim, que vous pouvez aller voir un ORL sans crainte de contamination. Ouais. Pour l'instant, quand vous sortez, en tout cas, si vous allez voir le médecin, vous mettez un masque. Vous avez quoi en termes de prévention?
Oui, depuis quelques semaines maintenant, pour sortir ici à
Conakry,
il faut forcément porter un masque.
Voilà. Bah, si vous mettez un masque pour la consultation et que vous lavez bien les mains en rentrant et en sortant, il n'y a pas de raison, vous devriez aller consulter. Comme ça, votre jeune, elle pourra enfin partir. En tout cas, avec ces conseils du docteur Diop, on vous souhaite une excellente journée à Conakry. Et on va prendre une autre auditrice. On a beaucoup de monde, donc on va essayer de répondre à un maximum de questions. On part pour le Congo Brazza, pour Pointe-Noire précisément, où l'on retrouve Annie. Annie, bonjour. Non, Annie n'est pas là, donc j'ai fait une petite erreur. On a en revanche une autre auditrice qui est avec nous. On part pour la RDC, l'autre Congo, Kinshasa. C'est Karine. Karine, bonjour.
Bonjour.
Ravie de vous parler, Karine. Alors, allez-y, merci. Expliquez-nous. Le docteur Massamba Sassou Ndiop est à votre écoute. Allez-y.
Ok, merci. Bonjour, docteur. Bon, bonjour. Mon problème est que je dors difficilement et je manque d'appétit. Alors, depuis un certain temps, je prends des vitamines pour m'en sortir. Alors, j'ai des inquiétudes quant aux conséquences. Que dois-je faire par rapport à ça?
Karine, excusez-moi, vous dites que vous ne mangez pas, vous avez perdu du poids?
Non.
Karine, non, vous n'avez pas perdu de poids, mais vous n'avez pas d'appétit.
Oui.
Et pourquoi ça vous inquiète si vous ne perdez pas de poids, de ne pas manger?
Bon, si je ne prends pas soin de ça, donc je perds du poids. Mais pour le moment, je m'efforce, donc je mange difficilement, je mange avec beaucoup de difficultés. Seulement quand je prends des vitamines et que je mange vraiment avec appétit.
Vous avez remarqué que quand vous prenez ces vitamines, ça vous ouvre l'appétit, c'est ça?
Oui, et je dors aussi bien.
Et si vous vous privez de ces compléments, vous avez l'impression d'aller beaucoup moins bien, c'est ça?
Oui.
Docteur Massamba Sassou Ndiop, oui, allez-y.
Ok, je perds de conséquences, quoi.
Vous avez peur de prendre trop de vitamines, ça puisse nuire à votre santé, c'est ça?
Oui.
Docteur Massamba Sassou Ndiop, qu'est-ce que vous pouvez dire à Karine?
Oui, alors déjà, vous pesez combien pour quelle taille?
Je pèse 69.
69 kilos, vous mesurez combien?
69, j'ai 33 ans.
Oui, mais vous mesurez quelle taille, Karine?
Quelle taille?
Un mètre 10.
Non, un petit peu plus.
Non, bon. D'accord. Bon, mais de toute façon, alors déjà, c'est sûr que bon, consulter par téléphone, c'est pas une vraie consultation, donc attention. S'il y a réellement, s'il y avait vraiment une perte d'appétit, s'il y avait vraiment une perte de poids, faut quand même aller voir s'il n'y a pas d'autres types de lésions pouvant expliquer ça. Donc ça, c'est déjà le premier conseil très important, c'est de consulter par rapport à ça. Maintenant, les compléments alimentaires, alors, très franchement, je pense que une alimentation équilibrée, c'est-à-dire aussi bien en légumes secs, avec du poisson, des volailles, un peu de viande et des fruits, ça vaut n'importe quel complément alimentaire du moment où vous n'avez pas de carence. Si vous n'avez pas une carence précise dans un domaine précis, il n'y a pas de raison de prendre de compléments alimentaires. Maintenant, il faut voir un petit peu plus. Vous arrivez... est-ce que vous avez tendance à faire la sieste, vous ne faites pas la sieste, le matin quand vous vous réveillez, vous êtes fatigué, vous prenez du café, bon,
est-ce qu'il y a des choses au cours de votre journée, est-ce qu'il y a des choses au cours de votre journée, Karine, qui pourraient expliquer votre difficulté à vous endormir?
Oui, bon, je suis ménageur, j'ai 3 enfants. Des fois, j'ai trop de travail et les dérangements des enfants. Bon, parfois, j'ai envie de manger, mais je n'ai pas le temps pour manger. Alors, je repousse, je travaille d'abord et puis pour manger après. Alors, après là, je constate que je n'ai pas d'appétit. Et si je fais ça souvent, je perds d'appétit complètement. Donc, ce qui me pousse à prendre de vitamines pour avoir un peu d'appétit.
Je pense qu'en fait, il faut plus raisonner sur ce qu'on appelle une hygiène de vie, c'est-à-dire en fait un certain rythme par rapport à vos activités habituelles, par rapport aux heures de repas et par rapport à la qualité du repas que vous prenez, et plutôt que de prendre des compléments alimentaires. Et je pense que c'est plutôt sur ça qu'il faut agir, et bien évidemment s'assurer que vous n'ayez rien sur le plan médical, aucune pathologie avant pour pouvoir être vraiment rassuré.
Et peut-être, Karine, consulter un médecin généraliste pour échanger avec lui sur ce sujet, parce que ça veut dire consulter. Exactement. Donc pour aller voir tout simplement un médecin pour en parler directement, parce que vous voyez, si vous nous avez appelé, si ça vous inquiète, c'est que ça mérite une consultation. Vous souhaite une excellente journée, Karine. On a une question, un message qu'on a reçu sur la page Facebook de l'émission. C'est Jonas qui est à Lubumbashi qui écrit « Il m'arrive de saigner du nez, plus souvent pendant la nuit, également pendant les périodes de forte chaleur. Je suis âgé de 30 ans. Mon épouse me dit que c'était aussi arrivé à notre fille qui a 3 ans et donc Jonas, cet auditeur, voudrait savoir s'il y a une prédisposition génétique par rapport à ce saignement. Est-ce que vous avez une piste sur ce sujet, docteur Massamba Sassou Ndiop ?
Alors c'est plus, en fait, je dirais anatomique. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on appelle la tache vasculaire, c'est un vaisseau qui affleure à l'intérieur, si vous voulez, quand vous rentrez, si j'ose dire, au niveau du nez, juste à peine 2 cm et demi, 3 cm, vous avez la tache vasculaire, et c'est elle qui saigne, en fait, parce que elle affleure. Et chez les personnes qui ont donc où l'épaisseur de la muqueuse est très faible, en période de chaleur, effectivement, il y a une vasodilatation de cet âge vasculaire et on peut saigner. Il y a aussi le fait que si on prend de l'aspirine, par exemple, on peut saigner. Quand on est sous anticoagulant, on peut saigner. Donc, en fait, ce sont différentes... Quand on fait une poussée hypertensive, on peut saigner. Donc, en fait, il faut aussi regarder tout ça. Souvent, quand ça arrive déjà depuis l'enfance, c'est que la tâche vasculaire, puisqu'on n'est pas encore hypertendu, on n'est pas encore sous aspirine, c'est purement anatomique. Mais après, il y a des facteurs favorisants.
Fragilité donc dans certaines familles. On reste en RDC, on va prendre la direction de Kinshasa. Kinshasa, d'où Rabin nous a laissé ce message, on l'écoute.
Bonjour Caroline, je m'appelle Rabin, je réside à Kinshasa. C'est en 2018 que j'ai eu des problèmes, mon médecin m'a diagnostiqué une gastrite et il m'a fait une ordonnance. Après, j'ai pris les médicaments et je me sentais un peu mieux. Mais après, c'est revenu. Quand je suis encore parti le consulter, il m'a dit que c'est devenu maintenant chronique et aigu. Alors, ça m'a fait très peur. Ma première réflexion était celle d'aller voir le traitement traditionnel, mais là aussi, on a peur parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire. Mais alors, je demande, est-ce que je peux espérer un traitement moderne, curatif, qui peut totalement me guérir? Le deuxième problème que j'ai, c'est le problème des transpirations. Je transpire un peu plus que tout le monde, même dans les conditions normales. Alors, je me demande comment on peut expliquer cela.
Alors, deux questions complètement différentes. Peut-être d'abord commencer, docteur Massamba Sassou Ndiop, par ces brûlures d'estomac qui indisposent cet auditeur de Kinshasa. On va dire simplement qu'il demande, faut-il consulter? Je pense que vous allez lui répondre assez franchement.
Oui, je pense que d'ailleurs, pour à peu près tous
le
les
monde,
patients,
on
va aider à orienter un peu les choses, du coup. Est-ce que vous êtes stressé, d'une part? Est-ce que la nuit, ça remonte? C'est-à-dire, quand vous êtes couché, est-ce
que ça brûle? Alors, la difficulté, c'est que c'est un enregistrement et qu'on va avoir vraiment du mal à avoir ces questions. Donc, il faut se contenter, en fait, des éléments qu'on a eus pendant le récit, pendant l'enregistrement de Rabin, avec donc juste ces manifestations, cette gastrite. Et en fait, son interrogation, c'est qui porte, est-ce qu'il faut consulter, on va dire, en tradi, ou est-ce qu'il faut consulter en moderne?
Là, je pense qu'en plus, c'est d'ailleurs un prix Nobel, d'ailleurs, de médecine. Le médecin qui a découvert l'Helicobacter pylori. Je pense que là, on est quand même... Alors, gastrite, ulcère de l'estomac, point d'interrogation, peut-être œsophagite. En tout cas, il y a plusieurs entités qui peuvent être responsables de cela. Mais avec les douleurs à l'estomac, je pense qu'on est plutôt, effectivement, sur... de l'ulcère ou de la gastrite, et avec des crampes de faim, par exemple. Et donc, je pense que là, non seulement on a énormément évolué, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'il faut d'un côté traiter cette bactérie, l'Helicobacter pylori, qui permet d'éviter justement le côté chronique et le côté finalement réviviscence de cette pathologie-là. Donc il faut, et on l'a dans près de 80, je crois qu'on est aux alentours de 95 à 98% de la population en Afrique qui est porteur de cette bactérie. Donc en fait, lorsqu'on a ces symptômes-là, il faut d'un côté traiter, il y a vraiment des protocoles, cette bactérie, et de l'autre traiter bien sûr la gastrite ou l'ulcère par des anti-ulcéreux qui sont extrêmement efficaces et qui marchent très bien. Donc en fait, il faut d'une part aller consulter, faudra normalement une fibroscopie, j'espère qu'il peut avoir accès à cela. On doit faire une fibroscopie, on fait un prélèvement, on vérifie qu'il y a l'hélicobactère, on le traite et on traite l'ulcère par les anti-ulcéreux en plus.
Donc la réponse consultée, oui, et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des traitements pour soulager les douleurs de Rabin.
Et qui permettent quasiment de guérir, c'est vraiment, c'est vraiment extrêmement efficace. Je vous dis, c'est un prix Nobel de la paix.
De la paix de l'estomac, on va dire, de la paix du ventre. Alors là encore, je m'en garde, docteur Massamba Sassou Ndiop, c'est encore un autre message enregistré. Alors on ne va pas pouvoir poser deux questions. Alors bouger, on le dit souvent dans cette émission, bouger, faire de l'exercice, c'est bon pour la santé. On passera d'ailleurs tout à l'heure à l'acte avec le docteur Jean-Marc Sen en fin d'émission, mais à présent, un message et cette question, on va voir pourquoi je parle justement de la sédentarité avec Ellie qui est toujours en RDC.
Bonjour Caroline, j'ai 26 ans, je fais du jogging deux fois la semaine et les dimanches je cours avec les amis et on fait quelques exercices. Mais j'ai déjà remarqué que je suis le seul qui a des vertiges. Pourtant, je mange à midi. C'est pas que je viens, je cours à nez à faim. Alors, je voulais savoir comment expliquer cela et comment je peux l'éviter.
Alors, des vertiges, quand on fait de l'activité physique, ça vous fait penser à quoi, docteur Massamba Sassou Ndiop?
Alors, ce que j'aurais bien aimé, c'est qu'on puisse lui prendre d'une part sa tension au moment où il a le vertige, ça c'est une chose. La deuxième, c'est sa glycémie, de voir, parce que c'est pas parce qu'il a mangé à midi qu'il peut pas faire une hypoglycémie, comme il le dit en fin d'après-midi quand il fait cet effort-là. Et puis, est-ce qu'il s'hydrate assez? Est-ce qu'il boit avant l'effort suffisamment? Il y a des personnes qui vont avoir tendance à l'effort, par exemple, à être un peu plus, si j'ose dire, vagal, plus que d'autres. Donc pour moi, il faut déjà vérifier ces trois éléments-là. L'hydratation, la glycémie, la tension.
On ne lui dit pas d'arrêter le sport, pas du tout, mais bien de contrôler ce qui se passe, de bien contrôler ce qui se passe pendant qu'il est en train de faire ses efforts, c'est important.
Alors, après, Voilà. Après, il faut quand même, parce qu'attention, il y a d'autres causes, mais dans lesquelles je ne peux pas rentrer dans les détails. Mais par exemple, si jamais, imaginons qu'il y ait un problème valvulaire au niveau de la valve cardiaque, dans ce cas-là, effectivement, à l'effort, il peut avoir une sensation de vertige. Donc dans ce cas-là, on est sur, sur quelque chose de médical beaucoup plus important, beaucoup plus grave. Donc il faut aussi, bien sûr, qu'il consulte par rapport à éliminer une pathologie réelle médicale, bien sûr.
Donc consulter et bien se surveiller et bien s'hydrater. De toute façon, peu importe l'activité physique, s'hydrater dans ces cas-là, c'est important, surtout sous les latitudes des auditeurs. Décidément, beaucoup de questions en provenance de République démocratique du Congo. Et c'est à Mbandaka que l'on retrouve Franck. Franck, bonjour.
Oui, bonjour Madame la journaliste, bonjour aussi à notre docteur sur le plateau.
Merci beaucoup. On vous écoute Franck, allez-y.
Oui, moi mon problème est celui des cobartires. Lesquels cobartires sont accompagnés par des maux de dos. Aujourd'hui je peux dire que ce maux de dos dure à peu près 5 ans environ. Et je ne sais pas si le problème est lié à quoi. Je ne sais pas si c'est suite à mon travail que je gère du matin au soir. C'est pourquoi, lorsque j'ai vu la publication de RFI, Priorité Santé, je n'ai pas hésité. J'assois ma préoccupation à faire de demander un peu si je pouvais avoir des cancers.
Vous parlez, excusez-moi, Franck, vous parlez de courbature. Vous disiez votre activité professionnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne bougez pas de la journée?
Oui, non, je sors le matin. Je m'assois sur un banc et j'écoute le lieu vers 20h pour dormir. C'est ça un peu. Ça me prend un peu du temps, de 6h jusqu'à 20h, ça me prend du temps. Je suis un peu condamné sur un banc et je ne sais pas si c'est le problème là des cobartis ou des maux de dos sont liés à mon travail que j'ai. C'est pourquoi je vais un peu demander conseil ou solution auprès de l'invité que le docteur, afin que je puisse un peu me débarrasser de ces problèmes.
Et vous parlez de courbatures, elles sont localisées dans quelle partie de votre dos?
Normalement, au niveau derrière les dos sur la colonne vertébrale, vraiment, c'est ça là où je sens vraiment mal.
Et ça vous pèse plus en fin de journée ou au début de votre activité, par exemple, quand vous vous levez le matin, vous êtes encore courbaturé ou ça va mieux après une nuit de sommeil?
Normalement, je dirais surtout le matin, s'il faut me réveiller, j'ai trouvé un serré problème pour me réveiller. Et j'ai fait plutôt demander, il ne faut pas que je sois obligé de rejoindre mon poste de travail. Et quand je rejoins le poste de travail, les après-midi, je ressens encore le même problème. Le soir, le même problème. Et je ne sais pas si c'est lié à quoi. Mais j'ai fait d'ailleurs de mon mieux un effort de recourir à l'automédication en prenant un peu des antidouleurs. Mais si je prends les antidouleurs, c'est juste un soulagement de 3-4 jours, mais le problème revient encore. De même, j'ai fait aussi un effort de suivre les conseils de mes frères en faisant un peu recours à un traitement particulier qui m'a proposé un peu de tisane. Et j'ai constaté que les problèmes, c'était un peu le même. Quand je prends des tisanes et la solution, le soulagement, c'est pour 3-4 jours et puis le problème revient. Mais je ne sais pas la solution efficace et où pourrais-je trouver cette solution. C'est
pourquoi vous connaissez la composition de cette tisane, Franck?
Bon, la composition, je ne sais pas, mais un de mes frères m'a rassuré que lui, l'a déjà utilisé, il a pris ça et puis il a été guéri de ses problèmes. C'est pourquoi je l'avais un peu fait confiance, mais pour moi, c'était un peu le contraire, parce que quand je prends cette tisane, la solution c'est pour 2-3-4 jours et le problème, le mal de dos revient encore.
Il revient. J'ai une dernière question avant de donner bien sûr la parole au docteur Massamba Sassou Ndiop. Est-ce que vous faites de l'activité physique, parce que vous dites vous restez assis toute la journée pour ce travail, mais est-ce que le matin, par exemple, vous faites des étirements? Est-ce que vous jouez au foot? Est-ce que vous faites un petit peu de course à pied ou vous restez toujours assis?
Toute la journée, je reste toujours assis, mais je fais un peu de sport une fois par semaine. Si tous les dimanches, je joue un peu au foot.
Une fois par semaine. Docteur Massamba Sassou Ndiop, évidemment, rester assis toute la journée, même quand on est jeune, à la fin, on peut avoir des courbatures.
Ben oui. Alors, j'aurais voulu savoir, est-ce qu'il a quand même eu soit un bilan radiologique, soit scanographie, soit un scanner au niveau du dos? Et la deuxième chose, au niveau du rachis, donc, la deuxième chose, est-ce que la douleur descend dans une des cuisses ou des mollets jusqu'aux pieds?
Franck, vous avez passé une radio?
Pardon?
Est-ce que vous avez déjà passé une radio?
Non, je ne me suis pas donné la peine d'aller voir un médecin.
Non, vous n'êtes pas allé voir un médecin. Et est-ce que cette douleur, comme le demandait le docteur Sassoun Diop, est-ce que ça descend le long de vos cuisses? Qu'est-ce que vous sentez comme des petites décharges électriques dans vos cuisses?
Dans les cuisses, vraiment, je ne sens pas de douleur. Ça se met seulement au niveau du dos.
Au niveau du dos.
C'est déjà une bonne chose. Ça veut dire qu'on est plus sur un problème de lombalgie et pas de sciatique. Alors, étant donné ce qu'il fait, c'est-à-dire s'il reste toute la journée assis, d'une part, ça veut dire aussi que je suppose qu'il ne fait pas effectivement de sport, de renforcement musculaire. Ça veut dire aussi, alors je ne sais pas quelle est la qualité de sa literie aussi, c'est-à-dire, parce qu'il dit que le matin aussi ça lui fait mal, donc ça veut dire aussi comment est son matelas, son lit, est-ce qu'il est plutôt mou, est-ce qu'il est plutôt... Donc en tout cas, il y a un certain nombre de choses qui veulent dire qu'on est plus sur, je dirais, de l'hygiène de vie, jusqu'à preuve du contraire. Un bilan radiologique serait utile pour vérifier qu'il n'y ait pas de discopathie au niveau du lombaire. Mais je pense que le plus important actuellement, ça serait qu'il essaye de faire un renforcement musculaire au niveau de son dos avec le gainage. Alors je pense que Jean-Marc Sen pourrait lui donner d'excellents conseils par la suite. Vous savez, moi je préfère toujours faire des mesures qui soient de ce type-là, c'est-à-dire aussi, en termes d'hygiène de vie, c'est son siège, c'est-à-dire que idéalement, maintenant on utilise des sortes de sièges où on est demi-debout, si j'ose dire. C'est-à-dire que s'il est sur un banc plié à chaque fois, ça favorise énormément ses problèmes de dos. Donc, s'il pouvait trouver une sorte de... Et ça se fabrique, on peut le fabriquer chez nous en Afrique extrêmement aisément par un menuisier, et donc qu'il aille sur Internet et qu'il regarde les sièges qui permettent un petit peu d'être mieux assis. Et après, de toute façon, effectivement, il faut qu'il consulte, mais après, en troisième solution, en plus des antalgiques, mais juste pour passer une crise, c'est les anti-inflammatoires. Il faut faire attention aussi à éventuellement protéger l'estomac. C'est pour ça que je pense qu'il peut-être s'en sortir avec déjà toutes les mesures, je dirais, d'hygiène de vie qui permettraient avant tout d'essayer de passer ce cap.
Mieux s'installer et puis prendre soin de lui par la même. Merci beaucoup, Franck.
Il faut vraiment remuscler.
Merci beaucoup, Franck, pour cet appel. Et à notre tour de vous remercier, docteur Massamba Sassoun Diop. Ça passe très, très, très vite d'avoir répondu à toutes ces questions des auditeurs. Merci, docteur. Je rappelle que vous êtes médecin urgentiste, directeur de SOS Médecins à Dakar. Et à très bientôt dans Priorité Santé. On s'accorde à un moment pour faire de l'activité physique, lutter contre la sédentarité. Et comme toutes les semaines, c'est en votre compagnie, docteur Jean-Marc Sen. Bonjour.
Bonjour Caroline.
Jean-Marc, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo et habitué de Priorité Santé. Donc, on va faire avec vous du sport, doucement. On va s'entretenir, on va dire surtout. Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui comme exercice?
On va proposer ce qu'on appelle le relevé de jambes. Ça va être un exercice qui va être formidable pour travailler les abdominaux. Et puis, on va essayer de travailler aussi les pectoraux en faisant des pompes sur les genoux. Donc, c'est deux exercices qui vont travailler à la fois le gainage et puis les muscles du haut du corps également.
Côté matériel, Jean-Marc, un petit peu toujours le même procédé. On a besoin de quoi?
Alors, pas grand-chose, juste un tapis de sol et puis, bien sûr, être dans une tenue confortable, ce sera parfait.
Avoir peut-être une petite bouteille d'eau à portée de main si on a besoin de s'hydrater au cours de cet exercice. Premier exercice, justement, vous nous décrivez la position de départ. Est-ce que l'on va faire comme geste?
Alors, le relevé de jambes, la position de départ, ça va être couché sur le dos. Les jambes sont collées et levées à 90 degrés. On a les bras qui vont être étendus le long du corps, les mains légèrement sous les fesses, la paume vers le sol. On va ensuite, dans le mouvement, descendre les jambes doucement, sans toucher les talons au sol. Ou en tout cas, un minimum de temps si vraiment on a mal au dos. Il faut éviter justement de cambrer le dos. Et puis ensuite, on relèvera les jambes en position initiale en contractant les abdominaux. Et on va faire ça un certain nombre de fois, très doucement.
J'ai déjà mal rien qu'en vous écoutant. J'ai visualisé, je me suis rendu compte que ça allait gravement tirer au niveau du ventre.
Voilà, absolument. Les abdos là vont travailler, mais c'est un très bon exercice à faire en douceur, évidemment.
En douceur, comme toujours avec vous. Et en douceur, on va décompter. Vous nous donnez le rythme et le tempo. C'est parti.
Allez, on a les jambes qui sont bien élevées et on commence à les abaisser. 1, 2, on les maintient. 1, 2, et on les relève tout doucement. 1, 2, on maintient les jambes en haut. 1, 2, on les descend. 1, 2, on les relève tout doucement. 1, 2, on redescend les jambes. 1, 2, on les relève. 1, 2, on descend à nouveau les jambes tout doucement. 1, 2, on les relève. Voilà pour le premier groupe. 1, 2, on les redescend. Et là, le premier groupe a fini. 1, 2, on relève les jambes. 1, 2, on les redescend. 1, 2, on relève les jambes. 1, 2, on les redescend. 1, 2, on relève les jambes en inspirant. Et 1, 2, on les redescend. Et là, en soufflant. Et le deuxième groupe a terminé. 1, 2, on relève les jambes en inspirant. 1, 2, on les descend en soufflant. 1, 2, on relève les jambes en inspirant. 1, 2, on les redescend en soufflant. 1, 2, on relève les jambes en inspirant. 1, 2, on souffle. 1, 2, on relève. 1, 2, on descend et l'exercice est terminé. Bravo à tous.
Voilà, c'était dur. Là, je pense que les auditeurs... Moi, j'attends que les auditeurs sur la page Facebook de Priorité Santé nous écrivent comment ça s'est passé pour eux et ils nous disent éventuellement si le docteur Jean-Marc Sen, il est vraiment trop dur avec eux. Hein, parce qu'on ne veut pas maltraiter nos auditeurs, nous, docteur Sen.
Non, ils sont sportifs, je suis sûr.
Ils sont sportifs, c'est ça. Eh bien, on va leur faire confiance. On croit qu'ils sont sportifs. Donc, vous allez nous donner une deuxième séance de cette petite séance de musculation. On respire et on vous retrouve. Et vous revoilà, docteur Jean-Marc Sen, pour faire travailler les abdos, les abdominaux de nos auditeurs.
Absolument.
Vous nous réexpliquez la position et on va recompter. Allez-y.
Alors, on est bien allongé sur le dos, les jambes sont levées à 90 degrés. On a les bras étendus le long du corps, les mains sous les fesses, la paume vers le sol. Et on va descendre les jambes, puis les remonter. Et quand on descend les jambes, eh bien, on ne touche pas le sol. Alors, nous y allons. Allez, nous sommes en position de départ, les jambes relevées. 1, 2, on descend les jambes. 1, 2, on relève les jambes. 1, 2, on descend en soufflant. 1, 2, on relève en inspirant. 1, 2, on descend les jambes en soufflant. 1, 2, on relève en inspirant. 1, 2, on souffle. 1, 2, on relève et on inspire. 1, 2, on descend et on souffle. 1, 2, on relève et on inspire. 1, 2, on descend, on souffle. Voilà pour le premier groupe. 1, 2, on relève et on inspire. 1, 2, on descend et on souffle. 1, 2, on relève et on inspire. 1, 2, on descend et on souffle. 1, 2, on relève et on inspire. 1, 2, on descend et on souffle. Voilà pour le deuxième groupe. 1, 2, on relève et on inspire. 1, 2, on descend et on souffle. 1, 2, on relève, on inspire. 1, 2, on descend et on souffle. Bravo.
On dit bravo, d'autant plus que c'est pas fini, d'autant plus qu'il va y avoir un deuxième exercice derrière.
Absolument, ce serait trop simple.
Alors, pendant qu'on reprend notre souffle, on vous écoute puisque vous allez nous donner vos instructions. Hein. Vous êtes un peu notre coach sportif dans Priorité Santé. Docteur Sen, expliquez-nous qu'est-ce qui se prépare pour ce deuxième exercice.
Alors, on va réaliser des pompes sur les genoux. L'objectif, c'est bien sûr de renforcer les bras et les pectoraux. Donc, on est sur notre tapis de sol, les genoux au sol, en appui sur les deux mains. Les bras sont tendus et le dos est bien droit. Et l'objectif va être de fléchir les bras pour rapprocher la poitrine du sol. Pendant la descente, il faut bien que les coudes partent vers l'extérieur. hein, et le haut du buste doit finir entre les deux mains en fin de mouvement. Donc il doit être relativement bas, en tout cas le plus bas possible. Et puis il faut inspirer pendant la descente et expirer en remontant.
Alors c'est simple, et puis vous comptez comme d'habitude, vous dites toujours que c'est simple en riant. Bon, je me demande quelle est la tête que font les auditeurs pendant qu'ils sont en train de souffler en vous entendant sourire de votre jolie voix, mais on y va quand même, on va décompter, c'est parti.
Eh bien allez, on est en position à genoux et les bras tendus, et on descend et on remonte. Et 1, on descend, on inspire et on remonte en soufflant. On descend, on inspire, on remonte en soufflant. On descend, on inspire, on remonte en soufflant. On descend et on inspire, on remonte en soufflant. Voilà pour le premier groupe. On descend et on inspire, on remonte en soufflant. On descend et on inspire, on remonte en soufflant. On descend et on inspire, on remonte en soufflant. Voilà pour le deuxième groupe. On descend et on inspire, on remonte en soufflant. On descend et on inspire, on remonte en soufflant. On descend et on inspire, on remonte en soufflant. Voilà, bravo, on a fini la première session.
Et on souffle, on se repose et on se retrouve dans quelques secondes. Nous revoilà pour la dernière séance d'exercice. Hein. On fait travailler nos muscles aujourd'hui, toujours en votre compagnie, docteur Jean-Marc Sen. Eh bien, on va continuer ces pompes donc sur les genoux. Réexpliquez-nous la position de départ et on va y aller.
On est en position de genoux, les bras tendus. L'objectif, ça va être de fléchir les bras et de rapprocher la poitrine du sol. Allez, on commence et on descend et on inspire et on pousse, on remonte et on expire. On descend et on inspire, on remonte et on expire. On descend et on inspire, on remonte, on expire. On descend, on inspire, on remonte, on est en expirant. On descend et on inspire, on remonte et on expire. Voilà pour le premier groupe. On descend et on inspire, on remonte, on expire. On descend et on inspire, on remonte, on expire. On descend en inspirant, on remonte, on expire. Bravo pour le deuxième groupe. On descend et on inspire, on remonte, on expire. On descend et on inspire, on remonte, on expire. On descend et on inspire, on remonte, on expire. Bravo.
On y est, bravo, bravo. On entend mes petites mains. Moi, je suis épatée parce que je vous dis franchement, je ne l'ai pas fait. Je suis beaucoup trop, on va dire paresseuse, mais j'ai pas le tonus. Peut-être que c'est une question d'âge, je ne sais pas, Jean-Marc. Il y a un âge pour faire ces exercices ou c'est à tous les âges ?
On peut faire ça absolument à tous les âges. Tout le monde peut réaliser ça. Et puis, c'est adapté véritablement à tout le monde. Et puis, quelquefois, on peut avoir des courbatures le lendemain ou deux jours après. Ça, c'est normal. Il faut seulement bien penser à s'hydrater, surtout lorsque l'on a terminer les exercices, faire des petits étirements et il n'y a rien de grave à avoir des courbatures, ça va passer tout seul.
C'est signe qu'on a bien travaillé peut-être d'une certaine manière. On vous remercie beaucoup. Hein. Merci encore une fois cette semaine de nous avoir aidé à garder la forme, docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. C'est tout ça, Maquée, Ophélie Lassen, Juliette Brault, Didier Bleu. Et avec nous aujourd'hui, Raphaël Lazizi. Demain, la parole aux étudiants en médecine en première ligne hein, pendant la crise sanitaire en France. Expérience, ressenti, impact sur la vision du métier et aussi impact sur leur santé mentale. On se dit à demain. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, lavez-vous bien les mains.
Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou, qui est à vos côtés pour lutter contre cette pandémie et vous assure de tout son soutien. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.